troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire des grandes crises climatiques, car la Fabrique de l'Histoire, comme d'autres émissions de France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance à 10h ou encore les émissions scientifiques de 14h, sortent ce matin. Donc toutes ces émissions sortent les thermomètres, les baromètres, les dates de vendange et les stratigraphies. Et ce matin, avec Anaïs Quien, qui a préparé cette émission avec nous, nous avons choisi de vous parler d'une période de 500 ans environ. On en discutera d'ailleurs de ces 500 ans, baptisée Petit Âge Glaciaire, qui du 14e siècle au 19e siècle a refroidi nos ancêtres. Quand a commencé cette période? Quand s'est-elle donc exactement terminée? Comment et avec quelles données déterminer ce type de variation? Comment prendre en compte à la fois les événements extrêmes et les données moyennes dans une période aussi longue? C'est ce que nous verrons avec nos invités, Laurent Lietzenburger. Il est historien, chercheur associé au Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire et il est auteur d'une thèse qui vient tout juste de paraître sur le climat à Metz à la fin du Moyen-Âge. Emmanuel Garnier est avec nous, il est historien du climat et des risques, il est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Liens de l'Université de La Rochelle. Il est auteur entre autres des Dérangements du temps chez Plomb, mais également très bientôt, le 28 octobre, sortira un livre auquel il a participé, l'histoire du climat en Franche-Comté, du Jurassique à nos jours. Et notre troisième invité, Michel Mani, va y participer aussi à ce même livre, l'histoire du climat en Franche-Comté. Il est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Chrono-Environnement de Besançon. Aglagla, aglagla, c'est comme ça que nous commençons cette émission de ce matin, donc avec ces bruits de patins à glace et ce blizzard qui souffle. Avec vous Anaïs Quien, bonjour.
Bonjour.
Et avec vous donc Laurent Lietzenburger, bonjour.
Bonjour.
Michel Mani, bonjour.
Bonjour.
Et Emmanuel Garnier qui est en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Nancy. Bonjour Emmanuel Garnier.
Bonjour à tous.
Et si on commence avec vous, Michel Mani, vous n'êtes pas historien, vous nous l'avez bien dit, mais vous travaillez en chrono, donc écologie, en chrono-environnement. Si on commence par essayer pour nos auditeurs de définir ce qu'est ce que les historiens et les autres spécialistes comme vous appellent le petit âge glaciaire, c'est quoi? Ça commence quand? Ça se termine quand? Et on va peut-être discuter parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord tous sur les bornes chronologiques de cette période donc de l'histoire du climat.
Effectivement, la notion de petit âge glaciaire est une notion qui a été définie par un Américain en 1939. Elle correspondait dans ses descriptions à une phase d'avancée des glaciers qui était clairement identifiée à partir de documents historiques en particulier, avec des plaintes de paysans face à l'avancée de ces glaciers qui envahissaient leur pâture et qui leur posaient de gros problèmes. Et donc, il a proposé le terme de « petit âge glaciaire » en écho, en fait, à d'autres oscillations du climat, mais qui se passent sur des périodicités beaucoup plus longues, à savoir les alternances glaciaires-interglaciaires qui obéissent à des facteurs orbitaux et qui obéissent à un pas de temps de l'ordre de 100 000 ans. Mmh. Et donc, naturellement,
on est dans un pas de temps beaucoup plus restreint.
Beaucoup plus restreint. Et donc, pour se positionner par rapport à ces longues phases glaciaires suivies d'interglaciaires de 10 à 20 000 ans, le petit âge glaciaire, qui effectivement durait à peu près 5 siècles, apparaissait quelque chose en miniature. Hein. Et donc, il a proposé ce terme de petit âge glaciaire.
Anaïs Quien.
Et à notre échelle de quelques milliers d'années, finalement, ça paraît effectivement très difficile de se mettre d'accord sur une date de début de ce petit âge glaciaire.
D'autant que les archives naturelles sur lesquelles je travaille ne sont pas toujours d'accord elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, pour rester dans le domaine glaciaire, puisque le petit âge glaciaire a d'abord été défini en écho à ces crues glaciaires des temps modernes, si on prend par exemple le grand glacier d'Aletsch, sur lequel a travaillé Hans-Peter Holzhauser, un collègue suisse, les reconstructions qu'il a faites permettent de faire débuter ce petit âge glaciaire aux environs de 1300. Hein, donc quelques siècles en arrière. Si on prend par exemple le cas de la mer de glace sur lequel a travaillé un étudiant récemment à l'université de Chambéry, en fait les archives qu'il a étudiées lui permettent de montrer que la crue de la mer de glace commence dès 1100 de notre ère. Donc vous voyez, en fait, suivant les archives que l'on étudie, les indicateurs aussi que l'on va prendre en compte, on peut aussi avoir des décalages chronologiques. Bon, en fait, c'est une histoire de sensibilité, en particulier de ces glaciers alpins. Le glacier d'Aletsch, lui, marque un petit retrait après 1100. Il connaît une première crue vers 1100. Suivi d'un petit retrait et d'une grande phase d'expansion qui va débuter vers 1300. La mer de glace, elle, ne connaissant pas ce petit retrait aux alentours de 1200. Par contre, une chose sur laquelle s'accordent à la fois les historiens, je crois, et les archives naturelles, pour une fois, c'est la fin du petit âge glaciaire aux environs de 1850. Et là, les travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie montrent sans ambiguïté comment tous les grands champs glaciaires alpins se mettent en phase de retrait à partir de cette date.
Je crois, disait à l'instant Michel Magny, je crois que s'entendent à la fois les climatologues ou les historiens des sciences naturelles et les historiens. C'est vrai que sur cette question-là, Emmanuel Garnier, il y a des débats, des discussions selon qu'on appartienne à ces sciences de la nature, par exemple, et aux sciences humaines que sont, par exemple, l'histoire ou la géographie. Emmanuel Garnier, pour définir ce type de grand mouvement climatique.
Oui, effectivement. Cela étant dit, la définition proposée par Michel Magny correspond grosso modo au patent retenu par les historiens, c'est-à-dire qu'on a tendance à faire débuter le petit âge glaciaire au début du XIVe siècle, avec comme référence, parmi d'autres, les grandes famines à partir des années 1310 à peu près. C'est aussi le départ des Vikings du Groenland. C'est un bon repère, hein, les archéologues l'observent très très facilement. Quant à la fin du petit âge glaciaire, c'est vrai, Emmanuel Leroy-Ladurie parle des années 1850. Il a raison, c'est confirmé par les glaciologues. En revanche, quand vous descendez dans la plaine avec d'autres archives, hein, nous, ce qu'on étudie, mon collègue Médivis le confirmera, c'est un peu la signature sociale de cet impact climatique, en particulier des extrêmes. Eh bien, on constate quand même que les hivers de la fin du 19e siècle, je pense aux hivers de 1870-71, encore dans les années 1880, sont très froids et restent relativement proches des hivers du petit âge glaciaire, au sens officiel du terme.
Anaïs Kier.
Et pour autant, Emmanuel Garnier, ce petit âge glaciaire ne signifie pas qu'il fait tout le temps plus froid qu'une norme qu'on aurait prédéfinie auparavant. On a aussi des périodes de sécheresse, des périodes d'extrêmes climatiques, mais qui ne sont pas forcément systématiquement du côté du plus froid.
C'est très juste et c'est un petit peu mon cheval de bataille depuis quelques années. Oui, en fait, de petit âge glaciaire, on ne voit pas tant que ça de glace, en dehors des observatoires de montagne. Ce que l'on voit dans la plaine, dans les régions de plateau, sont des hivers rigoureux, plutôt enneigés, et surtout des printemps et des étés frais et humides.
On a aussi beaucoup d'embâcles quand même sur les grands fleuves.
On en a beaucoup plus que depuis le milieu du 19e siècle, incontestablement, mais on en a pas tant que cela. D'accord. Je travaille actuellement sur Genève, où on a une espèce de mythe sur la période, les périodes répétées de glace, en quelque sorte, du lac. Finalement, on a une quinzaine d'événements parfaitement recensés dans les archives locales depuis le XIVe siècle. C'est pas négligeable, mais c'est pas aussi important qu'on pourrait l'imaginer. Mmh. Et effectivement, le petit âge glaciaire est à nuancer, dans le sens où il a connu, à certaines périodes, des épisodes totalement contradictoires. J'entends par là des épisodes plutôt très secs, voire même des périodes chaudes.
Alors, Laurent Lietzenburger, vous n'êtes pas encore intervenu. Vous venez de publier votre thèse qui est sous le titre « Une ville face au climat, Metz à la fin du Moyen-Âge », donc avec une chronologie qui débute à 1400 et qui se termine en 1530. Et cette thèse, vous y racontez, comme le disait Emmanuel Garnier, les impacts sociaux et culturels du climat sur la population messine dans cette période de 130 ans environ sur laquelle vous travaillez. C'est un des aspects intéressants aussi que d'affiner ainsi, de descendre au plus bas, pourrait-on dire, auprès des populations, pour, à partir d'un cas d'espèce, la ville de Metz, eh bien, voir quel est l'effet de ce rafraîchissement climatique généralisé sur les populations de cette ville, Laurent Lietzenburger.
Oui, alors en fait, l'intérêt, je pense, du point de vue historique, c'est de pouvoir justement tenter de mesurer de façon concrète, systématique et continue les conséquences sociales, économiques, sur le commerce aussi, sur les conflits ou tensions que ça peut créer avec les voisins pour se partager les ressources disponibles, notamment quand elles sont plus ou moins absentes. Voilà, c'est l'apport principal que ce type d'enquête peut apporter. Alors, du point de vue de l'historien, pour dater le début du petit âge glaciaire, on est aussi confronté à un biais documentaire, c'est que on a une masse de documents plus importante à partir du début du XIVe siècle.
Oui, et d'ailleurs, ce livre et cette recherche que vous avez fait sur Metz a été possible parce que tout à coup, vous avez repéré qu'il y avait suffisamment de données à un moment donné, d'ailleurs données qu'on perd par la suite, au moment où vous arrêtez. Vous êtes arrêté parce que ça n'était plus possible de suivre les aléas du temps, parce que vous aviez moins de sources de données, d'informations, en tout cas de données d'informations de qualité pour pouvoir continuer cette recherche. Et les sources dont vous faites état dans votre ouvrage sont très diverses.
Oui, alors on a des journaux personnels, des journaux familiaux, des grandes chroniques rédigées par des auteurs plus ou moins instruits. Et on peut croiser ces documents qui sont assez nombreux. Il y en a une dizaine pour Metz, ce qui donnait de l'intérêt à cette ville particulière par rapport à toutes les villes voisines. On peut les croiser avec une importante série documentaire à caractère fiscal. Donc des impôts qui sont prélevés, qui pèsent sur la production, sur les échanges, ce qui nous permet de connaître indirectement en fait l'importance des récoltes à peu près dans tous les domaines. Et aussi qui nous permet de connaître les relations commerciales qui vont se tisser. Parce qu'il y a une possibilité pour éviter une crise alimentaire à l'échelle d'une ville, c'est toujours d'essayer de diluer la crise par l'échange en fait.
Oui, alors ça c'est très important parce que en fait vous expliquez que une crise alimentaire donc qui pourrait être issue justement d'une mauvaise récolte qui elle-même serait issue de mauvaises conditions climatiques a des conséquences. Alors on le sait, on imagine des révoltes ou des choses comme ça, mais vous travaillez à la fois sur cette contrainte-là, c'est-à-dire il y a moins à manger, donc comment les populations de Metz vont-elles réagir à ce moins à manger, et surtout comment vont-elles trouver la manière de s'en sortir à la fois vis-à-vis des institutions religieuses, comment les institutions religieuses vont-elles prendre en main justement cette crise frumentaire pour pouvoir peut-être s'en tirer elles-mêmes, pour pas être mise elle-même en cause dans cette affaire-là, ou que Dieu ne soit pas mis en cause, etc., etc., Laurent Lissenberger.
Oui, alors en fait, le climat est un stimuli qui est permanent et qui oblige les autorités urbaines à composer avec une contrainte qui peut être plus ou moins présente. Alors quand on a des années un peu trop fraîches, un peu trop humides, la ville est obligée de tenter d'anticiper une crise frumentaire, donc en établissant des stocks.
Ou tenter de ne pas le faire parfois aussi.
Ou tenter de ne pas le faire, oui, c'est vrai. C'est comme ça que les patriciens qui gouvernent la cité de Metz cassent par exemple une révolte au début du 15e siècle, au tout début du 15e siècle, en menaçant de faire mourir les habitants de faim en fait.
Et alors justement ce que disait tout à l'heure Emmanuel Garnier à propos de y a-t-il beaucoup d'embâcles, beaucoup de débâcles, etc. Ces questions-là, vous les travaillez au plus près d'une certaine façon. Vous voyez les institutions religieuses par exemple ennuyées par l'entretien des ponts, parce que non seulement les ponts, théoriquement les ponts ça leur rapporte, puisque ces ponts-là il faut payer un péage pour pouvoir passer, donc au bout du compte être une institution religieuse et avoir des ponts, un hôpital par exemple, ça peut être utile, mais à partir du moment où il y a trop de débâcles et trop d'embâcles sur la rivière, et bien à partir de ce moment-là, ça devient plus compliqué parce qu'il faut faire des réparations qui parfois coûtent cher et qui coûtent jusqu'à 25 années de péage pour certaines institutions, Laurent Lissenberger.
Alors les ponts de Metz sont souvent lésés par des dommages qui ne sont pas forcément très importants mais qui nécessitent des réparations coûteuses, et c'est vrai qu'en fait ces infrastructures ne rapportent pas beaucoup aux institutions religieuses ou à la ville, donc elles sont nécessaires ces réparations parce que ça pourrait paralyser le commerce. Et le commerce, la possession des terres autour de Metz, c'est ça qui rapporte vraiment en fait à tous les acteurs de la vie religieuse ou de la vie civile.
Thank you.
Un poème de Charlotte d'Orléans, donc nous sommes en 1415, en 2015, et donc nous sommes 600 ans après la prise à Azincourt de Charlotte d'Orléans, un poème de Charlotte d'Orléans mis en musique par Debussy. Hiver, vous n'êtes qu'un vilain, et vous me faisiez remarquer, très justement, Anaïs Quin, pendant ce disque, et bien que je n'avais pas précisé ce qu'était une embâcle, et peut-être certains de nos auditeurs ne le savent-ils pas non plus, c'est quoi une embâcle, justement, en l'occurrence, Laurent Burger,
une embâcle, c'est le gel des eaux habituellement libres.
Voilà.
Et donc, est-ce que ça n'est pas aussi peut-être la perte de l'usage de certains de ces mots pour décrire des phénomènes climatiques, des phénomènes naturels ? Ne correspond-il pas, tel pas, à quelque chose de l'ordre de la perte de l'observation quotidienne dont on pâtirait peut-être aujourd'hui d'ailleurs, et une perte de conscience peut-être de l'évolution du milieu dans lequel on se trouve et de l'évolution climatique, de l'avancée du temps et de ce qu'on pourrait prévoir de manière peut-être très, très intuitive ou très culturelle, peut-être plutôt à l'inverse, des temps qui nous attendent dans un mois, dans six mois et encore plus loin.
Alors ça peut nous emmener dans trois directions différentes, c'est tout simplement qu'on n'observe plus les phénomènes naturels parce qu'on pense que notre société s'en est affranchie totalement, c'est peut-être parce que les systèmes d'observation sont plus ou moins automatisés et on fait confiance à des experts ou à des institutions qui s'occupent de ces questions particulières, et peut-être aussi que oui, il y a une perte d'intérêt en fait pour cet aspect du quotidien.
Oui, alors ça dit aussi quelque chose de les spécifications, les spécialisations, pourrait-on dire, de tous les métiers qui travaillent autour du climat. On va en parler dans un instant avec Emmanuel Garnier en tant qu'historien, mais avec vous, Michel Magny, c'est quoi vos archives, c'est quoi vos données, comment travaillez-vous, par exemple, sur les sédiments des lacs de montagne, de Joux ou d'ailleurs, par exemple, qui vous permettent de définir justement les évolutions climatiques, les périodes où il a plu beaucoup plus, les périodes où il a beaucoup moins plu, etc., etc.
Alors, la spécificité des archives naturelles, peut-être par rapport à celle des archives historiques, c'est peut-être, et en particulier dans les cuvettes lacustres, c'est d'offrir des séquences d'accumulation sédimentaire qui permettent d'avoir, de retracer une histoire en continu. C'est-à-dire que nous, quel que soit le temps qui passe, en fait, on est capable de dire quelque chose sur ce temps qui passe, sur la météo, sur le climat qui s'est développé à ce moment-là, parce qu'il n'y a personne qui s'est arrêté d'écrire.
Et avec l'arrogance des sciences dures, vous pouvez même dire que vous travaillez en données absolues, ce qu'aucun historien n'oserait dire, parce que les données, on entendait Jean-François Berger qui nous le disait à propos du néolithique lundi, il dit que les données absolues des carottages glaciaires permettent de dater presque à l'année près tel ou tel événement climatique, etc. Alors qu'évidemment, les historiens, ils sont plus douteux, puisque ce sont des notes qui sont prises par des hommes, et peut-être ces hommes sont-ils faillibles, par exemple.
Mais malheureusement, moi je me garderais bien d'être arrogant, même si on travaille à partir d'archives naturelles, parce que on a les mêmes incertitudes à partir des indicateurs que l'on utilise.
D'accord.
Et comme personne n'a été à notre place pour écrire cette histoire pour nous, on est obligé de choisir d'abord de trouver, d'imaginer des indicateurs qui soient pertinents, et puis d'essayer d'arriver à les interpréter en termes d'histoire du climat. Des fois, c'est pas toujours simple.
On invente ses sources d'une certaine façon, comme les historiens inventent leurs sources.
Exactement. Donc, on a bien des séquences continues qui nous permettent d'écrire une histoire continue, mais c'est à nous aussi de trouver les bons indicateurs. Alors, en ce qui me concerne, à partir de ces séquences lacustres, je travaille à reconstruire la variation du niveau des lacs, donc en particulier sur les montagnes du Jura, mais aussi sur le plateau suisse, par exemple, ou en zone méditerranéenne. Et à partir de là, de saisir un indicateur qui est rarement ou plus difficilement saisi quand on retrace l'histoire du climat. Souvent, on parle de température, mais pour ce qui concerne les facteurs hydrologiques, on est moins... les choses sont beaucoup plus complexes et plus difficiles à saisir. Il y a d'autres indicateurs aussi que l'on peut trouver dans ces séquences lacustres, par exemple grâce au pollen que l'on retrouve conservé dans ces accumulations sédimentaires. On est capable de retracer l'histoire de la végétation, d'en déduire des paramètres climatiques, de suivre aussi à travers l'histoire de cette végétation, du couvert végétal, l'impact de l'homme sur le paysage. Donc, quelle relation éventuelle il y a entre histoire du climat et histoire des sociétés humaines. Et puis, un autre type de marqueur qui se développe depuis plus d'une dizaine d'années, l'étude de petits restes d'insectes qui s'appellent les chironomes et qui nous permettent de retracer les variations des températures.
Emmanuel Garnier, alors on voit bien les archives qui permettent à Michel Magny de travailler, les vôtres, celles qui ont été développées aussi par Laurent Litzenberger auparavant, il n'y a pas les mêmes séries, il n'y a pas la même facilité peut-être pour pouvoir justement accumuler des données qui permettent ensuite de réfléchir à ces événements extrêmes d'un côté, à ces moyennes de l'autre, qui permettent de dire que le petit âge glaciaire a commencé aux environs de 1300 et s'est terminé aux environs de 1880.
Oui, je dirais que moi je suis un petit peu en anti puisque je travaille sur une période plutôt postérieure. Cela étant dit, on utilise le médiéviste, le moderniste et le contemporanéiste sensiblement les mêmes types de sources, à une différence près, c'est qu'à compter de la fin du XVe siècle, nous, les historiens modernistes, un petit peu plus tardifs, bénéficions d'un processus qui est une manne archivistique, bureaucratique, à savoir la création des États modernes avec la multiplication d'administrations spécialisées. Mmh. Qui m'amène par exemple à travailler sur les archives des eaux et forêts, en Angleterre sur les archives de la Royal Navy, en particulier les journaux de bord qu'on imposait aux capitaines et qui décrivent les conditions météorologiques des événements extrêmes comme les tempêtes, les cyclones, s'ils ont navigué dans les Antilles ou dans l'océan Indien, etc. Donc vraiment, on n'a plus de discontinuité documentaire à compter des années 1500, même en période de guerre, on arrive bon an mal an à boucher les trous. En revanche, ce dont on souffre jusqu'au milieu du 18e, voire un petit peu plus tardivement, c'est de données instrumentales. Mmh. Et quand on en trouve, c'est vrai que la collaboration avec les collègues des sciences dures, des climatologues en particulier, est parfois un peu rugueuse parce que ces instruments ne sont plus utilisés aujourd'hui, on n'est pas sûr du mode de fabrication, du type de graduation. Cela étant dit, alors c'est un travail de Sherlock Holmes, hein, mais l'historien a les moyens techniques et archivistiques d'affiner un petit peu ce calibrage d'instruments anciens. C'est ce qu'on a fait il y a quelques années avec le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement pour l'Observatoire de Paris, par exemple. Une autre piste...
Vous voulez dire que les instruments de ces époques-là, évidemment, on ne les a plus, ou ils sont détruits, ou
ils sont
cassés...
Dans des musées. Donc
on a aussi un doute sur la fiabilité à un degré ou à deux degrés près, oui, de leurs mesures, par exemple.
Exactement, mais on peut retrouver dans les archives les notices de fabrication sans difficulté, si on pense par exemple au thermomètre florentin. Ensuite, on peut chercher à savoir où étaient disposés ces thermomètres, s'ils étaient en extérieur, et s'ils étaient en extérieur, n'étaient-ils pas trop surexposés, etc. Mm-hmm. Donc ce sont vraiment des paramètres,
ou en tout cas
des interrogations qu'on peut... Ah oui, c'est un travail de limier, c'est très très amusant, un peu fastidieux. Alors on retourne voir ses collègues climatologues qui donnent toujours la surenchère, hein. Ces gens-là sont particuliers, très exigeants avec nous les historiens. Donc on s'adapte et on repart sur le front des archives, c'est assez amusant. Et une autre piste dont on a peu parlé de manière indirecte par le biais des péages pour Metz, moi je pratique énormément par exemple la procession, l'exorcisme, etc. Parce que l'Église était très très réactive et de fait c'est un indicateur de ce temps extrême. Mmh. Un temps extrême qui parfois s'inscrit dans la durée. Parce que la procession, ça répond un petit peu à une demande sociale, avant même d'être une demande de l'Église, de l'institution.
Anaïs Quin.
Oui, Emmanuel Garnier, ce qui est très, très, très grisant lorsqu'on vous lit, c'est que finalement, vos travaux sur ces crises climatiques perturbent l'ensemble de notre connaissance de l'histoire. Vous faites des analyses sur les facteurs de la Fronde, de la Révolution française. Il y a un article consacré là-dessus dans Météo et Climat Info sur comment les aléas de la météo qui précède 1789 concourent finalement peut-être aussi au paroxysme de cette crise et à cette révolution. Vous parlez même de l'influence d'une crise climatique sur la chute de la dynastie Ming, et vous bouleversez finalement totalement notre regard sur ces grands récits historiques qu'on a l'habitude de fréquenter.
Alors, vous avez raison, vous êtes prudente, vous dites concours. En aucun cas, on ne peut parler de monocausalité climatique, ce serait aberrant. Tout à l'heure, vous parliez de crise à Metz, etc. Ce qu'on observe, nous les historiens, c'est un autre processus qui va immédiatement amplifier l'accident météorologique, dans le cas de la Révolution, par exemple, française, mais on a bien d'autres événements comparables. C'est un phénomène vieux comme le monde qu'on présente aujourd'hui comme quelque chose de totalement neuf, etc. Ça s'appelle la spéculation. À chaque accident météorologique, vous pouvez êtes sûr quand vous lisez les mercuriales, c'est-à-dire les registres dans lesquels on notait le prix des denrées sur les marchés urbains ou dans les journaux privés dont a parlé mon collègue. Voilà. Immédiatement, vous avez des gens qui vont jouer sur les cours, c'est-à-dire faire preuve de rétention, distiller très très lentement les blés qu'ils ont en stock, au point que les autorités municipales, qui sont tout sauf passives, interviennent par des réquisitions, par des perquisitions, etc., avec gardes municipales, on parlait de milices urbaines à l'époque, on retrouve ça à Cambridge, à Londres, en Allemagne, et bien entendu, Paris, Besançon, etc. C'est un phénomène généralisé, en aucun cas des épiphénomènes. On a des pouvoirs qui sont très, très interventionnistes. Dans le cas de la Révolution, c'est un peu un tabou, je l'explique dans le papier auquel vous faites allusion. En France, on a du mal à accepter qu'il y ait une part de météorologie ou de climat, tout simplement parce que, bon, on accorde le primat à la conscience politique, à l'organisation, et puis oui, et puis la résultante du mouvement des Lumières, bien entendu, ce qui est totalement vrai. Néanmoins, ça, on le note parce qu'on utilise des archives que je dirais qui sont vraiment des archives de terrain, et vous le soulignez, c'est un petit peu la supériorité de l'historien. Les climatologues ont du mal à faire des modèles régionaux. Nous, on a des archives à pratiquement à toutes les échelles. Et ce que l'on voit sur le marché parisien, j'ai en tête ce journal d'un libraire qui s'appelle Hardy, sur lequel on travaille dans le cadre d'un groupe d'historiens autour de Daniel Roche. C'est remarquable parce que notre bonhomme, par exemple, bien qu'ayant une certaine aisance financière, refuse d'envoyer sa bonne, acheter son pain. Ce qui fait que dans ce journal, qui est rédigé pendant une trentaine d'années, on dispose des prix du pain. Et dans le cas des événements révolutionnaires, c'est très net. Vous avez tout d'abord un phénomène de sécheresse dans le courant du printemps 1788 qui est signalé par la plupart des autorités municipales françaises, Lyon, Paris, Rouen, etc. Alors vous allez me dire, et alors les étiages, les étiages sont les bases eaux des rivières, des fleuves. Qu'est-ce que ça a à voir avec un contexte social? Bien, tout simplement parce que le transport des pondéreux, du bois et du blé, autrement dit, les éléments de la survie d'un citadin normalement constitué jusqu'aux années 1840-50, la révolution ferroviaire, eh bien, c'est le transport par voie fluviale. Ouais, donc, si on a peu d'eau, on n'a plus de péniches, on n'a plus de barges qui sont à même d'apporter ce bois de feu ou ce blé. Mmh. Et puis, patatras, juillet, une espèce de vague orageuse qui ravage une bonne partie des greniers à blé. Et immédiatement, j'en reviens à la fois au Mercurial et au journal de ce libraire, les prix qui flambent. Mmh. Mais quand je dis qu'ils flambent, le marché est extrêmement réactif. Les prix augmentent en l'espace de 48 heures.
Oui, il faut avoir lu Stephen Kaplan et tout ce qu'il a fait sur l'histoire des crises alimentaires et de la guerre des farines, pour pouvoir savoir combien, effectivement, l'opinion publique, à la veille de la Révolution française, était extrêmement sensible à toutes ces questions d'évolution du prix du blé. Laurent Lietzenburger, on pourrait dire, comment passe-t-on du processus de l'historien à la procession que vous utilisez très fréquemment pour votre bonne ville de Metz, c'est-à-dire à cette façon qu'a l'Église de réagir à ces événements climatiques extrêmes en commandant de longues processions, mais aussi en allant jusqu'à des procès en sorcellerie qui permettent d'une certaine façon de détourner le regard de ceux qui sont mécontents des conditions climatiques à Metz.
Alors sur les aspects cultuels et culturels, j'ai emboîté le pas à Emmanuel Garnier qui justement a rapidement pointé du doigt ce type de source comme potentiellement intéressante pour étudier les impacts du climat sur les sociétés. Et dans le cas de la cité de Metz, on se rend compte que les autorités religieuses, elles ne prennent jamais seules la décision d'organiser des processions ou d'autres activités religieuses, c'est quelque chose qui va se décider de façon collégiale avec les autorités urbaines. En fait, les deux types de pouvoirs, religieux et civils, ont tout intérêt à ce que la stabilité sociale perdure. Donc il faut mettre en œuvre tous les moyens possibles pour éviter l'émeute, l'émotion qui pourrait déboucher.
Le stress climatique correspond aussi à un stress politique.
C'est exactement ça. Qui peut d'ailleurs
parler des stresseurs, d'ailleurs, dans votre thèse.
Oui, les stresseurs climatiques. Ouais, climatique. C'est une expression que j'ai empruntée à nos collègues climatologues et des sciences naturelles. Donc les stresseurs climatiques, oui, poussent justement une sorte d'inflation religieuse sous toutes les formes possibles. Alors on va révérer les saints et les saintes locales de façon obligatoire. On oblige les gens à le faire, sinon ils peuvent être punis par des amendes. On organise des processions plus ou moins importantes en fonction du stress qui est ressenti. Et donc là, c'est directement indexé sur les coups de froid intenses ou les excès humides du petit âge glaciaire. En fait, le stimulus processus climatique fait que à cette époque, on a toujours plus d'États. Alors, j'utilise le mot État parce que Metz, c'est une cité-État. C'est un peu le modèle italien. Donc, c'est une particularité au nord des Alpes, mais il faut bien voir les choses comme ça. C'est-à-dire que l'échelle de base économique à la fin du Moyen-Âge et pour une bonne partie de l'époque moderne, enfin, on pourrait demander l'avis d'Emmanuel Garnier, mais je pense qu'il serait relativement d'accord. La ville, c'est l'économie d'échange. Elle draine un territoire relativement proche. En fait, on a une sorte de géographie en archipel. Je pense que les géographes l'appelleraient comme ça. C'est la ville, le noyau économique de base. C'est pas l'État, c'est pas le duché, c'est pas le royaume de France. C'est vraiment la ville qui est le carrefour qui oriente les échanges,
au plus
qui
près.
Nous relations. Au plus près. Voilà. C'est la cellule logique à l'échelle des sociétés humaines la plus intéressante à étudier en ce qui, enfin, pour essayer de mesurer les conséquences climatiques sur les sociétés.
J'ai promis à nos auditeurs la question des sorcières. La question des sorcières est liée, enfin, une partie, évidemment, des accusations de sorcellerie est liée justement à ce stress climatique que vous démontrez donc dans votre thèse sur Metz entre 1400 et 1530, Laurent Lissenberger.
Oui, alors des chercheurs allemands en fait ont fait d'énormes enquêtes très larges sur cette question particulière et Metz s'inscrit. C'est un peu un paradoxe, hein. C'est une ville de langue française, mais qui est très proche culturellement de l'espace germanique. Et on retrouve un point commun là, c'est-à-dire que les procès de sorcellerie sont utilisés comme une espèce de soupape, la soupape ultime, quand les processions n'ont pas servi à calmer la population, quand la ville est dans l'incapacité de distribuer des grains pour assurer la subsistance de tout le monde, on va trouver des boucs émissaires qu'on va liquider de façon assez... assez visible pour que la société puisse évacuer un peu sa rage et les autorités donnent l'impression d'être actives contre les méfaits du climat. Voilà, c'est l'ultime solution.
Anaïs Quien.
Oui, Emmanuel Garnier, on évoque ici la question de l'évaluation des compétences politiques ou de l'idéologie politique qui règne à un endroit spécifique au cours d'un stress climatique. C'est un moment aussi où finalement la philosophie politique peut prendre le dessus et concourir de ces changements à concurrence de ces changements climatiques. Dans un de vos articles, vous citez un certain Jean-Jacques Rigaud qui, au début du 19e siècle, saisit l'incompétence finalement des autorités publiques au cours d'une crise climatique pour échafauder une théorie de l'État-providence.
Oui, mais l'État-providence est bien là. Il est là à toutes les échelles géographiques, à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'État royal, de l'Empire, si on parle du monde habsbourgeois. Il intervient de manière très pragmatique. Je reviens très rapidement, pour vous montrer un petit peu le pragmatisme de cette politique, à cette histoire religieuse. En fait, l'Église intervient plutôt en sous-traitant. Elle répond à une commande qui émane des pouvoirs séculiers, municipaux, royaux, etc. L'Église n'est pas, pas extrêmement motivée par ces procès, etc. Généralement, elle doit obtempérer à un ordre donné par les autorités, mais autorités séculières. C'est-à-dire que l'autorité séculière va d'un côté organiser une réponse religieuse, sans doute à des fins politiques, sociales, c'est-à-dire calmer le peuple, c'est ce qu'on appelle la clameur du peuple, qui exige des résultats sous forme de possession, si les possessions ne fonctionnent pas, sous forme de condamnation, les fameux bûchers de sorcières. Mais dans le même temps, ces pouvoirs vont élaborer, moi ce que j'appelle, et je l'emprunte moi aussi, on emprunte beaucoup aux climatologues, la notion de stratégie, d'adaptation, voire même de résilience, c'est-à-dire qu'elles mettent en place des dispositifs très techniques, très précis, très opérationnels, qui visent soit à prévenir, soit à diminuer l'impact de ce stress climatique, d'un extrême climatique, comme l'on dit. À Paris, par exemple, on sait que les blocs de glace, lors des débâcles, risquent d'emporter les arches des ponts. Eh bien, à partir des années 1650, à peu près, la municipalité se dote d'un corps de plongeurs. J'ai pas de description physique de ces bons hommes qui sont convoqués en novembre au pied des ponts parisiens, Pont-Marie, Pont Notre-Dame, etc. Et leur objectif, et leur mission en présence des élus parisiens, c'est de vérifier la solidité des ponts. C'est rien d'autre que de la prévention et de l'adaptation. Donc oui, et dans le même temps, l'État pêche par excès, c'est-à-dire qu'il construit cette notion d'État-providence qui est généralement plutôt rattachée à l'État républicain ou en tout cas aux États libéraux du 19e siècle, mais en fait la monarchie invente en quelque sorte, sans utiliser le terme, le mécanisme. C'est-à-dire qu'à partir du 18e siècle, vous avez raison de le souligner, l'État, en particulier en France, mais pas seulement, mais l'État royal français prétend venir en aide aux sinistrés des catastrophes, des extrêmes climatiques, mais pas seulement, hein, d'autres événements, des séismes, etc.
Y compris avec des dédommagements financiers d'ailleurs.
Voilà, alors j'y viens, oui. Ils vont construire une autre forme de fiscalité, une nouvelle fiscalité. Jusque-là, on imposait dans le cadre de la taille, etc. Et là, cette fois-ci, on va avoir un système de fiscalité qui autorise, par exemple, des sinistrés au fin 17e, 18e siècle à réclamer un dédommagement. On va avoir donc un État, comme aujourd'hui, généralement contrôlé par le curé de la paroisse si on est en milieu rural, par les autorités municipales en milieu urbain. Le tout remonte au niveau du représentant du roi dans la province, qu'on appelait l'intendant. L'intendant le fait office de premier filtre, nettoie, vérifie certaines choses et expédie ensuite son rapport au conseil du roi, qui va, après un nouvel examen, décider ou non d'attribuer une indemnisation. Mmh. Oui, donc c'est bien de la construction de l'État-providence. C'est-à-dire que l'État royal, qui pourtant est associé hein, à l'autel, c'est l'alliance du trône et de l'autel, prétend finalement diminuer le rôle de l'Église dans sa mission d'assistance depuis le début du Moyen-Âge.
Un extrait de l'air du génie du froid tiré du roi Arthur d'Henri Purcell dans notre débat donc consacré dans la fabrique de l'histoire à l'occasion d'une semaine de France Culture autour de l'histoire du climat et du climat aujourd'hui, donc consacré à ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire qui court entre 1300 et 1850-1860, la deuxième moitié du 19e siècle. Alors on est avec Laurent Linsenberger, historien, Emmanuel Garnier, historien, et Michel Magny, donc directeur de recherche au CNRS, au laboratoire chrono-environnement de Besançon. C'est une occasion formidable de montrer les vertus de ce qu'on appelle de nos voeux partout à l'université, qui n'intervient pas si souvent que ça, à savoir la transdisciplinarité. On voit comment, pour travailler sur cette question climatique, Michel Magny, eh bien, gens de sciences dures, climatologues, chrono-environnementalistes comme vous, etc., travaillent avec des historiens, des anthropologues, des géographes, etc., etc.
Oui, effectivement. Ce qu'il y a d'intéressant en travaillant sur une oscillation froide comme le petit âge glaciaire qui survient pendant la fin du Moyen-Âge et les temps modernes, c'est que pour la première fois, on peut croiser à la fois ce que nous disent les archives naturelles, et ce que peuvent indiquer les archives historiques. Et donc là, on a l'occasion d'un croisement qui, comme Emmanuel y faisait allusion tout à l'heure, peut être rugueux. Mais en fait, un frottement un peu rugueux, mais qui nous amène sans doute aussi à affiner un peu nos indicateurs ou l'interprétation des archives. Et sans doute aussi à nous interroger de plus en plus en tant que paléoclimatologue sur en particulier la saisonnalité. C'est-à-dire que c'est une chose de définir un climat moyen pour l'année ou pour une série d'années. Souvent, quand il y a des contradictions, ça met le doigt, contradiction entre archives historiques et archives naturelles, ça peut mettre le doigt sur des choses qui sont pas suffisamment définies au niveau de la saisonnalité. C'est-à-dire que quand on parle de changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire pour l'hiver? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'été? D'autre part aussi, si on croise, là encore pour le Jura, les données qui nous permettent de suivre un impact possible d'une période comme le petit âge glaciaire sur l'histoire des sociétés, à partir de ces séquences lacustres, du croisement des données polliniques avec les données hydrologiques. Eh bien, par exemple, dans le cas du lac de Joux, sur lequel nous avons travaillé, on peut suivre une histoire qui ne semble pas dramatique. C'est-à-dire que, le climat ne paraît pas régler directement l'histoire de la conquête humaine, anthropique, des crêtes du Jura, par exemple. Et on voit que au début du petit âge glaciaire, c'est à ce moment-là qu'on observe toute une série de défrichements, de mises en valeur, qui ne s'étaient pas développées pendant la période plus favorable de l'optimum de l'an 1000. Alors, il y a une petite pause entre 1500 et 1650, qui pourrait correspondre à un impact de ce petit âge glaciaire, mais dès le 18e, dès la fin du 17e, les choses reprennent, et en particulier pour la mise en place d'une industrie autour du verre et du fer. Et donc là, il apparaît clairement que les impacts économiques et politiques, sans doute dans cette conquête, paraissent plus importants qu'un possible impact du climat.
Laurent Lissin-Burger, est-ce un signe que la discipline que nous aimons tant, à savoir l'histoire, a redémarré son travail d'ogresse, c'est-à-dire de manger les autres disciplines, d'adapter, disons, tout ce que les autres disciplines découvrent pour pouvoir en faire son miel et faire quelque chose avec cela à partir de toutes ces données qui sont rassemblées par les sciences dures en particulier?
Oui, alors je pense que vous avez tout à fait raison. On est en train de réinterroger le passé en reprenant des enquêtes qui ont déjà été extrêmement denses et importantes, en posant de nouvelles questions, tout simplement. Et c'est vrai que là, on va s'inspirer des méthodes de nos collègues des sciences naturelles, alors avec allégresse, on emprunte partout où on peut, à partir du moment où on arrive à comprendre les méthodologies qui sont employées et à voir si on peut faire discuter les chiffres. Alors justement, c'est intéressant que Michel Magny soit à côté de moi aujourd'hui, parce que juste avant l'émission, on s'est rendu compte que, enfin, on a échangé un petit peu, et je me suis appuyé sur un de ses articles pour voir si la reconstitution messine tenait la route, parce que évidemment, j'ai dû sortir...
Reconstitution, ça veut dire des dates.
Voilà, une sorte de chronologie assez fine à l'échelle annuelle et saisonnière des variations
saisonnières.
Voilà. Et voilà, c'était une première forme de dialogue assez intéressante, et c'est comme ça que je connaissais Michel Magny, que je n'avais jamais rencontré par ailleurs.
Anaïs Kien.
Oui, c'est peut-être aussi l'occasion, en tout cas pour, je vais prendre comme cadre uniquement la France, qu'on accuse d'être toujours en retard dans le grand train de l'histoire globale, relire l'histoire à l'aune de cette grille de lecture, de cette interrogation qu'est l'histoire climatique. C'est une manière aussi peut-être de globaliser cette vision-là, de choisir une grille de lecture plus universelle qu'à notre coutume.
Oui, ça renvoie peut-être un petit peu aux anciens débats sur l'histoire totale, ça y ressemble fortement en tout cas. Alors, histoire globale, c'est pour...
Quelquefois, on a l'impression de revenir des fois aujourd'hui dans les années 70, effectivement, dans ce moment extrêmement proliférant où on avait l'intention comme ça de manger les autres disciplines, de les mettre à notre
disposition. D'avoir réponse à tout,
Effectivement. Emmanuel Garnier, vous en pensez quoi justement sur cette question?
Ben, moi, je n'opterai pas pour la version de l'ogre, hein, historien. Je pense que ce serait une terrible erreur. Il faut adopter, nous, les historiens, un profil bas, modeste, pour entreprendre ce dialogue avec les sciences dures. Quand je parlais de rugosité, c'est une bonne chose. Ouais. Hein, ça suscite le débat, ça remet en question les choses et nous pose des questions qui nous perturbent, et vice-versa, d'ailleurs. Donc, non, la transdisciplinarité telle que je la conçois et que je pratique, moi...
Ça n'est pas une discipline qui mange les autres, c'est ce que vous voulez dire.
Non, c'est un écosystème en équilibre, c'est indispensable. On se nourrit les uns des autres. Et je dirais que ce qu'on peut apporter, effectivement, de très net à ces sciences dures, c'est de la chair humaine. Hein.
Bel exercice de modestie, c'est formidable quand même.
Non, c'est la pure vérité. À force de pratiquer cette transdisciplinarité ouais. depuis une dizaine d'années, non, le salut passe par un dialogue équilibré entre nous tous.
Et égal. Alors justement, une des questions qu'on pouvait se poser, Michel Magny, c'est, puisqu'on a traité de cette question du petit âge glaciaire, c'est ce que veut dire ce petit âge glaciaire. Dans les discussions que nous avons aujourd'hui, on est à quelques coudées de la conférence sur le climat de Paris, fin novembre. Voilà. Ça sert à quoi ? À quoi ça peut être utile, d'une certaine façon, de réfléchir à ce petit âge glaciaire dans le contexte du réchauffement climatique d'aujourd'hui, par exemple ?
Je dirais que un des premiers aspects que l'on pourrait souligner, c'est la non-linéarité des processus. C'est-à-dire que on vient de le voir dans la discussion que l'on vient de tenir, à la fois en termes environnementaux, mais aussi en termes d'histoire des sociétés, il n'y a pas de linéarité dans la réponse des processus aux impacts du climat. Le petit âge glaciaire correspond à une oscillation froide, mais relativement peu marquée en termes de température, hein, moins de 1 degré. En termes de température moyenne globale.
Ça paraît dérisoire. Hein.
Oui, voilà. Donc, on joue dans un mouchoir de poche. Hein. Et en termes de température estivale, sans doute quelque chose de l'ordre de 1,2 degré pour nos régions. Hein, tempérées.
En moins.
En moins pour le petit âge glaciaire et en plus par rapport au réchauffement qui suit. Donc, vous voyez que, en fait, à une oscillation du climat relativement limitée, correspondent des impacts environnementaux, crus des glaciers, crus des fleuves, etc., en bâcle, débâcle, relativement importants. Et on vient de voir aussi tout ce qui concerne l'impact en termes sociétaux. Donc, on peut imaginer qu'avec une augmentation
prévue de 1 degré, voire 2
oui,
degrés.
Oui, voire 2 degrés, sans doute plus à l'horizon 2100. On parle de 3-4 degrés maintenant. L'impact à attendre sera vraiment extrêmement important. D'autre part, ce que je pourrais évoquer en termes de signification de ce petit âge glaciaire pour les scénarios qui nous attendent dans le cadre du réchauffement climatique en cours, c'est les forçages qu'il y a derrière le petit âge glaciaire.
Qu'est-ce que vous entendez par forçage ?
Forçage, c'est les facteurs naturels ou humains qui sont à l'origine des variations du climat. Donc, ce que l'on arrive à cerner derrière le petit âge glaciaire en termes de forçage naturel, c'est en particulier les éruptions volcaniques, mais aussi plus fortement sans doute les variations de l'activité du soleil. Et on a évoqué, certains scientifiques ont évoqué cette possible réactivation ou renforcement de l'activité du soleil pour expliquer le réchauffement en cours. Oui, c'est clair, de la même façon que le petit âge glaciaire correspond à une baisse de l'activité du soleil, le réchauffement actuel correspond pour partie à une augmentation de l'activité du soleil, mais en fait, il y a un véritable emballement de ce réchauffement lié aux facteurs anthropiques. Et on ne peut pas imaginer de petit âge glaciaire à un horizon relativement proche pour tempérer le facteur anthropique. Rien avant, je dirais, 3400 de notre ère pour le début d'un nouveau petit âge glaciaire qui viendrait. Donc ce que l'on peut dire, c'est que aux facteurs anthropiques qui expliquent le réchauffement en cours, s'ajoutent les facteurs naturels, donc on est vraiment dans une configuration qui est plutôt défavorable.
Merci de cette prédiction qui de toute façon, on ne pourra pas la vérifier, parce que dans 3400 de notre ère, on ne sera plus là pour en parler, en l'occurrence, ni vous ni moi. Un dernier tout petit mot, Emmanuel Garnier, sur cette question de cette utilité, mais très brièvement, s'il vous plaît, très très brièvement.
Je parlerai de retour d'expérience. Les Suisses, Genève en particulier l'an dernier, a fait face à une inondation de type petit âge glaciaire, un enneigement qu'on n'avait plus vu depuis des années et des années, donc ça ne faisait plus partie des scénarii météorologiques actuels, un redout brutal, et puis des cours d'eau, larves, etc., qui gonflent soudainement, et ensuite l'inondation imprévisible, très très brutale. Là, on est vraiment dans un scénario petit âge glaciaire, et les autorités suisses et genevoises ont été très étonnées, elles ne l'avaient plus prévu.
Merci à vous, Emmanuel Garnier, à nos collègues de Radio France qui vous ont accueillis dans vos studios, dans les studios de Radio France à Nancy. Je rappelle que vous allez publier bientôt un collectif autour de l'histoire du climat en Franche-Comté, dans lequel on trouvera aussi une contribution de Michel Magny, du Jurassique à nos jours, aux éditions du Belvédère. C'est le 28 octobre prochain que vous êtes auteur également des dérangements du temps. Merci à vous, Laurent Lissenburger. Je rappelle que vous êtes auteur de La ville face au climat, Metz à la fin du Moyen-Âge, 1400-1530. Un livre que vous avez financé par Ulule, c'est ça ?
En partie, oui, avec financement participatif public et privé.
Voilà. Ça fait plaisir de savoir que le financement participatif peut aider des thésards à publier leur thèse, en tout cas. Et puis, notons, vous avez noté, Anaïs Quin, qu'un grand colloque international se tient à l'université de Limoges entre le 1er et le 2 octobre prochain sur, justement, la crue, l'inondation, un patrimoine. Donc c'est un grand colloque sur 2 jours à l'université de Limoges. On en mettra les coordonnées sur notre site. Merci donc à tous les trois d'avoir participé à ce débat autour du petit âge glaciaire. Demain, on continuera à évoquer ces grandes crises climatiques et on parlera justement du rôle, vous l'avez évoqué très brièvement, Michel Magny, des volcans avec la fameuse éruption du Tambora. Moi, je connaissais pas, mais on en parlera demain, donc au début du 19e siècle. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Jean-Frédéric était avec nous à la technique et Véronique Samuilov à la réalisation. Si vous voulez écouter cette émission ou toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours après sa diffusion. Vous pouvez la télécharger dans l'année qui suit. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur les groupes Facebook de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter pour réagir à cette émission ou aux autres.